Amen. Je suis toujours très touché quand j'entends quand je chante ce chant, Père, unis-nous tous. La première fois où j'ai eu le bonheur de l'entendre, c'était en 1982, à Strasbourg, dans un rassemblement interconfessionnel, où on était 18 000 ou 20 000, et ce chant nous entraînait dans un mouvement de communion énorme. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père, unis-nous tous. Et j'ai envie de dire comme l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, vous n'avez été privé d'aucun des dons spirituels. C'est ce qui me venait en vivant ce culte avec vous. Vous avez été comblés des dons spirituels, les dons de prophétie, les dons de sagesse, et bien d'autres que je n'ai pas encore vus et découverts parmi vous. Dons de guérison aussi, dit Paul, il me semble, dans ce verset aux Corinthiens. Et je suis émerveillé parce que je vois, j'entends et je vis avec vous. Et j'ai envie de dire, comme encore Paul le dit aux Galates, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de notre Seigneur et aussi de la part de mes frères de l'Église catholique de Roubaix, que je suis heureux et fier de représenter parmi vous. Alors ce matin, Marianne va donner son témoignage, juste pour qu'on partage les merveilles de Dieu. Et puis après, je vais enseigner l'évangile de Marc au premier chapitre. Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Parce que c'est la parole que la liturgie de mon Église nous donne ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est-à-dire Isaïe 40 et puis Marc 1. Et je trouve que c'est plein d'humour d'envoyer un petit catholique venir prêcher le baptême chez les évangéliques. Ça me plaît bien. Alors je le ferai à ma manière, évidemment, et je pense que ça va nous enrichir tous.
Alors ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que le témoignage que je vais vous donner, il concerne le baptême aussi. Voilà. C'est émouvant de vous parler, mais j'en suis très, très heureuse. Alors je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc c'est mieux là ? Donc je disais que je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, et donc je vais tout simplement vous partager ce que le Seigneur a fait pour moi il y a déjà 30 ans. Voilà. Étienne et moi, nous sommes catholiques, nous avons été baptisés bébés. Nous sommes rencontrés dans le milieu scout. J'étais cheftaine, Étienne était chef. Donc c'est voilà, c'est une très belle agence matrimoniale, ça marchait bien à l'époque. On avait un aumônier qui nous a fait faire l'expérience de la prière. Et ça nous a bouleversés et ça a fondé quelque chose, une première pierre entre nous et le Seigneur. On a découvert la joie et la puissance de la prière avec d'autres. On s'est mariés, j'ai envie de dire, j'ai écrit sur mon papier, on s'est mariés avec beaucoup de sérieux. Donc on a préparé notre mariage et on l'a vécu vraiment de toute notre force. Et après notre mariage, nous étions en région parisienne. Moi, je travaillais comme infirmière, donc un week-end sur deux. Donc le dimanche où je travaillais, il n'y avait pas de place pour la messe. Et le dimanche où je travaillais pas, il n'y avait pas de place non plus pour la messe. Voilà, donc nous avons vécu comme on pouvait. Notre premier enfant, Nicolas, est né en 1980. Et le Seigneur nous a vraiment saisis avec cette naissance. Dans nos cœurs s'est posée la question du baptême de notre enfant. Et j'ai eu la certitude que si je faisais baptiser mon enfant, il fallait que je change de vie. Que ce que je vivais n'était pas comme le voulait le Seigneur. Et alors je me suis dit, ouais, changer. Et puis en moi, il y avait un cri, je veux faire baptiser mon enfant. C'était plus fort que moi, j'étais poussée, et ne pas le faire baptiser, c'était pas possible. Donc on s'est dit, faut qu'on change. Alors on a été à la paroisse rencontrer le curé pour savoir où était le presbytère. Enfin, on savait pas plutôt où était le presbytère. On était vraiment ignorants de chez ignorants. Donc on s'est dit, on va aller à l'église trouver l'adresse pour voir le prêtre. Et puis quand on est arrivé à l'église, c'était un soir en semaine après le travail. J'avais mon petit Nicolas en sac à ventre, il devait avoir 5-6 mois. L'église était ouverte. On s'est dit, ah, on va rentrer. On était tout contents de rentrer. Et puis, on entend du bruit dans la chapelle et il y avait une messe qui allait commencer. Donc, tout heureux, on rentre dans cette petite pièce et on partage la messe avec quelques fidèles et le prêtre. Voilà, ça dure jamais très longtemps, la messe en semaine chez les catholiques, ça dure 20 minutes. Et à la fin de ce temps, on va voir le curé et on se présente, on dit voilà, on voudrait faire baptiser notre petit Nicolas, mais on voudrait aussi rencontrer des chrétiens et on voudrait vivre la prière. Alors le curé nous regarde et dit, oh, la prière, c'est pas trop mon fort, mais allez vite rattraper les gens qui sortent là, eux, allez les voir. Donc il y avait deux couples qui étaient là, qui étaient à la messe, qui repartaient. Donc on rattrape ces gens, on leur dit notre désir de prier avec d'autres. Et vous allez rire, c'était les responsables du groupe de prière. Donc Alain et Joël nous ont dit, bon, on se réunit tous les mercredis soirs, venez et voyez. Alors on a dit d'accord, on est venu le mercredi suivant. Et ça a vraiment été un moment où le Seigneur nous a saisis. Et on a eu la joie d'être, Étienne et moi, saisis au même moment. Enfin, notre histoire de couple avec le Seigneur, voilà, on aurait pu avoir du décalage. Non, vraiment, on a rencontré le Seigneur vivant, ressuscité à peu près au même moment. On a demandé l'effusion de l'esprit dans ce groupe de prière. Ça n'a pas été sensationnel, il n'y a pas eu de miracle ou de tremblement de terre, c'était un tout petit groupe. Mais je peux vous dire que c'est pas la taille du groupe ou les signes extérieurs, le Seigneur se donne. Et donc on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit ou l'effusion de l'esprit, comme nous on dit. Ça, j'ai envie de dire, ça a tout changé. J'étais quelqu'un qui était comme un vase vide, je crois. Je peux me définir comme ça. J'étais coquette, mais à l'intérieur, il y avait rien. Enfin, je croyais qu'il y avait rien. C'était du vide. Je savais pas qui j'étais. J'étais divisée. Et le Seigneur vraiment m'a révélé que j'étais sa fille, que je m'appelais Marie-Hélène, que j'avais un nom écrit dans la paume de sa main et que j'avais pas à me cacher, j'avais pas à être coupée en petits morceaux. Voilà, vraiment, il a fait toute une œuvre de restauration dans ma personne et je lui en rends encore grâce aujourd'hui. Et un autre beau cadeau qu'il a fait, c'est qu'il m'a redonné l'amour pour mon mari. On était mariés depuis 4-5 ans et j'avais sans doute une fausse image de l'amour humain, mais j'étais déçue. Je pense que j'avais des désirs assez possessifs. J'attendais des choses d'Étienne, mais vu que j'avais pas grand-chose à donner, et donc voilà, la communication entre nous marchait mal, et j'en avais marre de ce mari. Et j'avais vraiment des tentations de partir avec mes deux petits-enfants. Et je pense que le Seigneur m'aurait pas arrêté, je l'aurais fait. Voilà, donc je rends grâce à Dieu d'être mariée avec Étienne depuis 35 ans.
Amen. Amen. Le Seigneur fait des belles choses pour nous. Tu m'entends, ma sœur ? Ça va ? La liturgie de notre Église catholique, des quatre semaines qui précèdent Noël, qu'on appelle l'Avent, est une liturgie qui nous emmène à demander, à attendre et à hâter, à prier pour hâter, non pas le 25 décembre, qui arrivera dans tous les cas, mais le retour du Christ. Le retour du Christ. Hein, l'avance, ça vient du latin ad ventus, qu'il advienne, qu'il arrive enfin. Et alors ce texte, ce premier chapitre de l'évangile de Marc, je le commence au chapitre 40 d'Ésaïe, donc, ou Isaïe, comme nous disons nous, J'ai choisi pour le lire la Bible de Jérusalem. D'ordinaire, ceux qui me connaissent savent que j'utilise une TOB, qui est la traduction œcuménique. Et puis quand j'ai regardé ce verset d'Isaïe, je l'ai trouvé dans la seconde, je l'ai lu dans la Bible de Maretsu, puis dans la BJ, puis dans la TOB, et je me suis dit, la TOB n'a pas une bonne traduction du tout sur ce verset-là. Et donc j'ai choisi de prendre la Bible classique des catholiques, et qui d'ailleurs emploie le même mot pour ce verset que la seconde. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est fini, que son péché est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour tous ses crimes. Une voix crie, préparez dans le désert une route pour le Seigneur, tracez droit dans la steppe un chemin pour notre Dieu. Et vous connaissez que toute vallée soit comblée, toute montagne, toute colline abaissée, que tout précipice devienne une plaine, les escarpements une vallée. Alors la gloire du Seigneur se révélera et toute chair la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. » On le sait par cœur. Donc ça, c'est écrit on ne sait pas bien entre moins 700 et moins 500 à date précise. Hein, c'est le deuxième morceau du livre d'Ésaïe. Ma Bible le sous-titre ce chapitre 40 et suivant en l'appelant le livre de la consolation d'Israël. Consoler, consoler mon peuple. Dans une traduction, voici que j'envoie mon serviteur en avant de moi. J'ai lu mon ange en avant de moi. C'est ce que traduisent les moines de Belgique. Et voilà que le plan du salut qu'on est encore en train de découvrir nous arrive comme ça, nous prépare comme ça depuis des millénaires, depuis plus de 700 ans avant la venue de Christ. Alors on pourrait lire aussi dans Malachie, il y a à peu près le même verset, hein, je ne sais plus à quel chapitre, je ne l'ai pas repris, mais cette annonce, cette injonction, préparer les chemins du Seigneur, à planisser, combler les vallées, nous vient depuis la nuit des temps, j'allais dire, et commence à nous dévoiler un tout petit peu le plan du salut. Et voici le début de l'évangile de Marc. Et je commence au verset 2. « Ainsi qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, voici que j'envoie mon messager, ou mon ange, en avant de toi, pour préparer ta route. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et vers lui s'en allait tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il annonçait dans sa prédication, « Voici que vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour délier la courroie de ses chaussures. Pour moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Un autre évangile ajoute, « Vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » La liturgie de mon église s'arrête à ce verset, mais j'ai choisi d'aller un tout petit peu plus loin, parce que le plan du salut n'est pas fini de dévoiler, là. En ce temps-là, au verset 9, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Et aussitôt après, l'Esprit le pousse au désert, et il demeura dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient, encore les anges. Et après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée, il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu, « Les temps sont accomplis ». Voilà ce chapitre qui est en train de nous dévoiler en quelques lignes le plan du salut. Vous voyez, depuis des millénaires, on annonce le messager qui doit préparer la route, car va venir l'envoyé du Seigneur, va venir l'ange. Et Jean fait son boulot de prêcheur, hein, il enseigne, il baptise, et il appelle à la repentance, au pardon des péchés. Et Dieu sait combien on en a besoin, hein, moi le premier. Parce que tout à l'heure on disait, mais on est bien petit, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait être pour répondre à l'amour du Seigneur. C'est la vérité. Et puis, voilà Jésus. Et avec lui est annoncé un baptême d'esprit et de feu. Et c'est, mes frères, mes sœurs, ce que nous témoignait Marie-Hélène il y a un instant, ce que j'ai fait comme expérience, ce que je suppose vous avez pour beaucoup fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, ou parfois très lentement, très doucement ou très brutalement, l'Esprit Saint irrupte, fait irruption dans nos vies et vient transformer toute chose d'une manière qui est absolument imprévisible, incompréhensible, inimaginable. Et Jean, qui est bien conscient des réalités, dit « Ben ouais, je suis même pas digne, moi, de me mettre à genoux et de retirer ses sandales. Je ne suis qu'un pauvre type. » Et donc Jésus arrive, il est baptisé par Jean, dans le Jourdain, et à ce moment, l'Esprit descend, et les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent comme, je ne sais pas si ceux qui ont entendu Carlos il y a quelques jours, le pasteur Carlos Payan, qui enseignait à Lille, Carlos nous rappelait ce verset de Genèse, je crois que c'est 28, où Jacob a un songe et il voit une échelle immense qui est posée sur la terre et qui va jusqu'aux cieux. Et le long de cette échelle, des anges montent et descendent d'ailleurs. Et voilà, les cieux étaient ouverts. Comme dans ce verset, les cieux sont comme déchirés. Et on lit dans le début de l'évangile de Jean un verset où Jésus dit, vous verrez les cieux, il dit ça à Nathanaël, je crois, tu verras les cieux s'ouvrir et les anges monter et descendre par-dessus le Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est plus la terre qui sert de support à l'échelle qui nous emmène vers les cieux, mais c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus le crucifié, planté sur sa croix entre terre et ciel, qui est l'échelle qui nous fait monter vers le Père. Donc on est là dans ce tout début de Marc en train de dérouler tout ce plan du salut qui nous emmène, hein, parce que nous sommes appelés à monter vers le Père. Et la voix qui dit, voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma faveur. Verset que vous connaissez déjà dans le psaume, je crois que c'est 2, hein. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et voilà, Jésus fait l'expérience. Un frère tout à l'heure me partageait sa conversion et il me disait, j'ai fait une expérience tout seul dans ma chambre et juste après j'ai été tenté par Satan. Et voilà ce que vit Jésus. Hein. Il fait l'expérience d'être plongé, lui le fils de Dieu, dans les eaux de la mort et dans la vie de l'esprit. Et juste après, il est poussé au désert et tenté par Satan. Et on voit bien que c'est ce que nous vivons tous. On est plongé à la fois on touche la gloire de Dieu. Ce qu'on vient de vivre dans cette louange ce matin, c'est magnifique. C'est la gloire de Dieu qui se pose sur nous. Et en même temps, on est tenté. Et on est poussé au désert. Ce désert dans lequel il faut tracer des routes. Hein. Il faut tracer des routes, pas pour y rouler en 4x4, mais pour que ce désert fleurisse et que le Seigneur puisse y avancer. Et Jésus est tenté au désert, il combat, il mène le bon combat, et les anges le servaient. C'est toujours ces anges qui montent et qui descendent, hein, de la terre au ciel, qui font la navette pour nous apporter les bénédictions du Seigneur, du Père. et qui viennent servir Jésus dans son combat, ces anges qui viennent nous servir, nous, dans nos combats humains, de manière très claire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des anges. Certains parmi nous ont déjà vu des anges dans leur vie. Je me rappelle d'un jour où un frère, on était dans une réunion de prière, et un frère est venu dire, je vois, parlant à Marie-Hélène, je vois ton ange gardien assis à côté de toi. Et c'était pas moi. Je vous prie de le noter. Les anges sont là et ils nous servent. Et ils montent et ils descendent le long de cette échelle de Christ. La tentation fait partie de notre sanctification, d'une certaine manière, de notre combat humain, de la vie de tous les jours. Et elle nous fait, frères et sœurs, de ceux qui sont dans les immeubles jaunes, tu disais là à côté, et de ceux qui sont dans le bureau d'à côté quand on travaille. On est de la même pâte humaine. Et voilà que Jésus se rend en Galilée, revenant de ce désert. Et la Galilée est un pays qui est fertile, hein, qui est riche, qui est beau. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus en arrivant dans cette Galilée? Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Voilà, les choses s'enchaînent. Hein, l'Esprit est tombé sur ce Fils de Dieu. Il affronte la tentation victorieusement, déjà vainqueur Jésus. Et ensuite, il va dans le pays où il est envoyé et il annonce la bonne nouvelle. Voilà, frères et sœurs, le menu de notre activité de la journée et de la semaine et du mois qui vient. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Et dans ce moment de l'Avent, voyez-vous, on attend la venue du Christ. Le royaume de Dieu est tout proche. Il est à la fois déjà là. Nous sommes là, on est les heureux bénéficiaires du royaume de Dieu. On l'expérimente déjà, hein, quelque part. Et en même temps, il n'est pas là. Il n'est pas là et il faut bien traverser, comme le dirait Pierre, hein, pas mal de vicissitudes et pas mal d'enquiquinements. Ça, c'est pas Pierre, c'est moi. Avant de voir arriver ces temps du royaume. On est bien dans cette dualité. Repentez-vous. Repentez-vous, dit Jésus. Comme le disait Jean-Baptiste, convertissez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors voyez-vous, ce plan du salut dont nous espérons la venue, l'advenue, ce plan du salut passe par l'expérience, la puissance de l'Esprit, il passe par la contemplation de la gloire de Dieu, et il passe aussi par le combat de chaque jour, contre le péché, contre les conséquences dramatiques des sottises des hommes, contre les injustices criantes de notre monde. Hein. Et Jésus a jamais dit « Laissez tomber vos frères et ne pensez qu'à la venue du royaume de Dieu ». Ça va bien ensemble, hein, et il y a un verset dans une des épîtres qui dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur ». Voilà, nous voilà donc dans ce moment de l'histoire où les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, mais il n'est pas encore là. Et il y a à la fois la nécessité de nous loger dans la contemplation de la gloire de Dieu et celle d'œuvrer pour nos frères et sœurs au quotidien. Alors j'ai pour donner un petit peu de chair humaine à cette injonction de Jésus, hein, qui dit « convertissez-vous », j'ai récupéré pour vous les conseils que donnent les évêques de France à leurs ouailles, dont je suis, au moment d'aborder une année électorale. Puisque nous sommes à quelques mois d'un événement national important. Et les évêques ont dit, ben voilà, vous autres chrétiens, au moment de faire votre choix et de mettre votre bulletin dans l'urne, vous devriez, dans cette perspective du royaume, dans cette perspective du salut de Dieu déjà donné, mais pas encore déployé et à venir, vous devriez évaluer les candidats suivant 13 points de discernement. Faites d'abord l'expérience. Demandons-nous de quelle manière la vie qui naît, la vie naissante, et l'unicité de chaque personne est respectée. On est en week-end du Téléthon, donc c'est un bon moment pour se pencher sur la valeur de chaque personne, handicapée ou pas. Demandons-nous de quelle manière la famille est aidée, encouragée, promue et respectée. Et demandons-nous aussi de quelle manière elle est attaquée et détruite. Le gender, c'est toutes les voies par lesquelles on détruit la famille. Il est légitime de se poser la question, hein, en se rappelant que dans la Genèse, il est écrit, il les créa à son image, mâle et femelle, il les créa. Demandons-nous de quelle manière l'éducation, et notamment l'éducation des jeunes au respect des personnes, est prise en compte. Portons une attention à la jeunesse, notamment dans cette période où les générations des 60 ans et plus possèdent les deux tiers du patrimoine français, et où les gens qui ont 20 ans ont à peu près aucune chance de pouvoir acheter une maison avant d'hériter quand leurs parents auront 90 ans. C'est terrible ça, hein. Rendez-vous compte de l'endroit où sont nos jeunes aujourd'hui. Quelle place et quelle importance on accorde aux banlieues, c'est-à-dire aux espaces où la vie est entassée, aux banlieues et aux cités. Nos évêques aiment bien le mot, ils appellent ça le vivre ensemble. C'est pas très français, mais ça dit quand même des choses. Quelle place mettons-nous dans notre tête et dans nos prévisions à l'écologie, c'est-à-dire au respect de la création qui nous a été confiée pour la faire grandir, croître et multiplier. Et derrière, on peut penser énergie renouvelable, nucléaire, Fukushima et tout ce qui s'ensuit. Ils ne nous disent pas comment il faut décider par rapport au nucléaire, mais ils nous disent, posez-vous la question, mes frères. Demandez-vous de quelle manière les gens qui se présentent à vos suffrages évaluent ces questions-là. Économie et justice. Je ne vous fais pas de dessin. Hein. Le triple A n'est pas le salut du monde. Hein, nous sommes là pour la gloire de Dieu et le salut du monde, mais en ce moment, on lutte pour le triple A et la crise de la dette. Questionnons-nous à cet endroit-là. Mondialisation, immigration, coopération, reconduite d'étrangers à la frontière ou pas. Handicap, bien sûr. Quelle place donnons-nous aux personnes porteuses d'handicap, mentaux ou physiques? Fin de vie. Et derrière ça, on va voir tout ce qui est autour de l'euthanasie, notamment, hein, de la prise en compte de la douleur, des maisons de retraite ou des maisons de moyen séjour, comme on appelle ça pudiquement. Et puis Europe, terre de liberté, patrimoine, laïcité, liberté de culte, de conscience, de religion. Voilà ce que nous suggère de regarder nos responsables dans l'Église catholique. Voilà, prions, mes frères. Prions maintenant pour que le plan du salut que désire se voir déployer le Seigneur nous entraîne sur les chemins de la vie que le Seigneur désire. Prions pour que chacun de nous mette ses pieds dans les pas du Christ, avance dans le désert, ouvre une voie, ouvre une route, aille vers ses frères. Prions pour que nous soyons libres d'avancer avec autorité, poussés par l'Esprit, et que nous puissions, en luttant victorieusement grâce à la croix du Christ contre l'ennemi, contre Satan, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, que nous puissions dire à nos frères, à nos sœurs dans la rue, oui, tu es sauvé, oui, le Seigneur t'aime, oui, il a fait pour toi des merveilles, pour toi son salut, il est pour toi. Voilà, Seigneur, nous voulons te donner nos vies, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Nous voulons recevoir de toi l'autorité pour combattre les puissances. Et nous voulons être dans notre monde, dans notre société, dans notre civilisation, dans notre quartier, dans notre boulot, dans nos familles. Ces hommes, ces femmes de paix, d'évangile, de bonnes nouvelles. Amen.